French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là, et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi, c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast, et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin avec l'envie de changer de vie, de tout plaquer, partir plus ou moins loin et de faire totalement autre chose dans votre vie ? De vivre une nouvelle expérience, une aventure hors du commun ou de simplement sortir de votre zone de confort ? J'ai le sentiment que l'idée a sûrement effleuré l'esprit de quelques-uns d'entre nous, vous ne croyez pas ? Eh bien, pour mon invitée d'aujourd'hui, ça a été le cas, et non seulement elle y a pensé, mais surtout elle a concrétisé cette envie il y a quelques années, et elle a accepté de venir nous en parler aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Johanna. Salut Johanna, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et puis d'en apprendre un peu plus sur ton parcours.
Ben, merci de me recevoir.
Alors, ton expatriation aux États-Unis et plus particulièrement en Floride date de 2014. Mais avant d'aller un peu plus loin et que tu nous racontes plus en détail ton aventure américaine, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous parles de ce que tu faisais en 2014, qui tu étais, où est-ce que tu vivais et puis à quoi ressemblait ta vie en fait en France.
Alors, moi je suis niçoise, donc je suis née à Nice, j'ai vécu 25 ans à Nice et avant de partir en Floride, j'étais à Nice. J'ai jamais voyagé dans ma vie avant, juste pour aller 2-3 fois à Paris, à Disney avec des copains ou voilà, des trucs comme ça. Donc j'étais très rêveuse moi, j'ai toujours fait beaucoup de danse, de chant, j'adorais Michael Jackson, donc mon rêve c'était d'aller aux États-Unis. Alors pas pour y vivre, vraiment juste pour des vacances, pour connaître l'Amérique, mais je voulais pas y vivre parce que je suis quelqu'un qui est très famille, j'ai toute ma famille à Nice et donc pour moi il était hors de question de quitter ma belle ville quoi, donc... J'étais très rêveuse et puis voilà, les années passent, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25 et là je me suis dit oh là là mais j'ai rien fait de ma vie, bon j'exagère hein, mais j'ai rien fait et puis j'avais tellement envie de voyager et puis j'étais dans une relation qui me rendait pas particulièrement heureuse, donc du coup un matin je me suis levée et j'ai eu le déclic et j'ai dit bon allez ça suffit, il faut que je réalise mes rêves.
Voilà. D'accord.
Exactement.
D'accord. Donc, un petit sursaut comme ça un jour. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite et puis dans quel délai en fait tu décides de mettre des choses en œuvre pour changer un peu ton avenir ou en tout cas changer ta situation telle qu'elle était à l'époque.
Donc voilà, je suis pas allée par quatre chemins. Je me suis levée le matin, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon ex, j'ai quitté mon boulot plus ou moins dans le même mois et je me suis renseignée pour faire à la base j'avais vu quelque chose pour faire une formation d'anglais à l'étranger, donc j'avais trouvé une école à Chicago et en fin de compte j'avais commencé les démarches administratives avec le pôle emploi etc parce que j'avais droit à des heures de formation, mais bon voilà, des bâtons dans les roues jusqu'à la fin. Au final ils m'ont pas accepté le départ parce que pour eux c'était si tu veux apprendre l'anglais tu peux très bien apprendre l'anglais à Nice. Donc voilà le raisonnement, le raisonnement des Français. Bref. Et donc du coup, c'était mon ancienne manager avec qui je bossais avant, qui a fait le programme Disney il y a de ça 15 ans. Donc elle m'a dit, moi, c'était la plus belle année de ma vie. Donc il faut que tu ailles sur ce site et que tu te renseignes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le programme Disney, tout simplement. Donc
Et si j'ai bien compris par rapport à ce que tu nous disais en introduction, c'est que Disney c'était déjà un petit peu ton univers, un peu une passion, si je puis dire.
Oui, ben en fait moi j'ai, comme tout le monde, j'aime Disney. Hein. Bon après bon je vais pas accrocher un poster de Mickey dans ma chambre, mais enfin je veux dire tout le monde aime Disney, tout le monde aime bien regarder les, quand j'étais petite et tout ça. Ouais, c'était sympa partir à Paris avec les potes, c'était cool. Donc donc ouais, j'aimais beaucoup Disney. Ouais, j'étais une grande rêveuse aussi, donc ça y fait. Et puis donc là, je me suis dit ce serait le combo quoi, d'aller travailler à Disney et d'être en Amérique. Donc je me suis dit ce programme là, il est pour moi, il faut que je le fasse. Donc
d'accord.
Donc voilà.
Et du coup donc ce programme, c'était une opportunité de partir travailler en Floride notamment. Pour Disney World.
Exactement. Donc en fait, ce programme, il est fait pour les jeunes qui veulent voyager, bouger pendant un an, 6 mois ou un an. Ce sont des programmes de 6 mois ou un an. Et donc en fait, nous pour les Français, donc je parle pour les Français, on va passer les entretiens à Lyon. Donc déjà, t'envoies ton CV sur le site. Si t'es retenu, t'as un petit entretien Skype. Et si t'es retenu, tu dois partir à Lyon pour les vrais entretiens. Et donc là, on se retrouve tous dans une salle. Voilà, ils nous font une petite présentation du programme. Et si on est pris, ils nous font le visa. Donc on va à Paris faire notre visa et puis ils nous donnent une date de départ et ça y est, on est parti. Donc en l'occurrence, pour moi, ça s'est fait très rapidement. Donc je pense que c'était un signe aussi que voilà, fallait que je parte. Donc en 3 mois, tout était fait et je suis partie. Donc voilà.
Les planètes se sont alignées et t'ont envoyé un signe qu'il était temps de changer de vie, en
Exactement.
Tout cas momentanément.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc je travaille toujours à Epcot. Donc Epcot, ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. J'espère que je dis pas de bêtises. De toute façon, si je dis des bêtises, je pense que je vais me faire reprendre au travail. c'est un parc Disney. Il faut savoir qu'à Orlando, il y a 6 parcs Disney, 2 aquatiques et 4 Disney. Donc Epcot, c'est un des parcs où en fait Disney avait cette idée de faire un peu un projet futur. Et donc, 12 pays sont représentés dans ce parc, dont la France. Donc voilà, la France, ça fait vraiment petit quartier Montmartre, c'est vachement sympa. Donc il y a une boulangerie, il y a un glacier, il y a des magasins, il y a une brasserie française qui s'appelle Chef de France et le resto gastronomique Monsieur Paul. Donc si tu as déjà fait de la restauration, tu peux direct aller au resto. C'était pas mon cas. Donc moi, j'ai postulé pour travailler à la boulangerie. Donc voilà, quand je suis arrivée à Orlando, j'ai commencé à vendre des pains au chocolat.
D'accord. Et alors du coup, pour ce départ, il me semble que c'est donc l'entreprise qui t'a sponsorisé, enfin forcément c'est ton entreprise qui t'a sponsorisé le visa, et on part avec quel genre de visa sur ce type de poste-là ?
Alors, c'est effectivement, du coup, le pavillon français maintenant, c'est géré par Jérôme Bocuse, c'est donc le fils de Paul Bocuse, et... les visas, sur le visa, il y a bien marqué Jérôme Bocuse, entreprise, Donc, en gros, on peut vraiment pas travailler ailleurs, quoi. C'est vraiment le visa pour le pavillon français. Donc, je me rappelle plus quel type de visa c'était exactement. Ça, je t'avoue, je m'en rappelle plus parce que c'était vraiment très spécifique vu que c'était vraiment pour le pavillon français. Et effectivement, ils nous font un visa d'un an, de 14 mois à peu près, 15 mois, et exclusivement pour le parc, quoi.
Pour le programme. D'accord, ok, super. Et donc, alors, tu t'envoles pour Disney World, pardon, Orlando, en Floride. Tu n'es jamais, comme tu le précises, tu n'as jamais voyagé aux États-Unis. Comment se passe ton arrivée? Est-ce que tu t'intègres facilement? Est-ce que tu rencontres des difficultés?
Alors, en fait, quand j'arrive, déjà, j'étais toute seule. J'ai passé la nuit dans un hôtel toute seule. Et puis le lendemain, c'est là que j'arrive dans mon appart. Donc, faut savoir que là-bas, quand t'arrives, Disney a un peu tout prévu. Donc, t'as un appartement qui t'est déjà assigné. Et puis voilà, on te donne les clés à la réception et hop, j'arrive. Et puis là, je rencontre qui vont être mes colocs en fait. Donc moi, je suis tombée. Donc c'est les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. C'est vraiment des grandes résidences avec piscine, salle de gym. Donc j'arrive là-dedans. Moi, je me croyais dans Desperate Housewives, tu vois, le genre de maison un peu comme ça. Là, je rencontre mes colocs, ces filles qui sont devenues mes sœurs en fait, parce que il y a pas une semaine sans qu'on s'écrive. C'est vraiment c'est devenu ma famille. Donc on a passé une année de folie tous ensemble avec le petit groupe d'arrivée qu'on était. Et je veux dire que quand je suis arrivée, enfin, ça s'est passé direct, vraiment trop bien en fait. Trop bien.
Chouette. Ouais. Et donc pas de difficultés particulières ni par rapport à la langue peut-être ou des différences culturelles qui te surprennent au moment où t'arrives.
Oui, complètement. Déjà, j'arrive et puis partout où tu vas en Floride, il y a la clim Mais c'est trop en fait, c'est trop. Donc en fait, ouais, on a super chaud et puis on rentre dans le bus et on se pèle. Ouais. Et donc ça, ouais, au début, il fallait que je m'habitue, j'étais en débardeur, mais il fallait toujours que je prenne une écharpe ou un gilet dans mon sac alors qu'il faisait 40 degrés dehors. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et donc bon, après on s'habitue. Hein. Mais les supermarchés, quand t'arrives dans le supermarché, il y a tout qui est immense. Il y a carrément un rayon entier rien que pour des M&M's. Donc ouais, on a un peu halluciné. Mais après ouais, c'est des trucs qu'on s'habitue. Les gens qui sont super sympas, qui nous aident, ça c'était vraiment super agréable quoi.
D'accord, donc une intégration plutôt
facile.
Plutôt facile.
Ouais, et puis après j'étais qu'avec des Français, donc à la base on va pour essayer de parler anglais, mais c'est vrai que vu qu'on reste qu'avec des Français, on parle pas trop anglais en fait, à part avec les guests, les clients qui viennent manger leur pain au chocolat.
Et du coup, toi qui étais à la base désireuse de partir dans cette école d'anglais et d'apprendre un petit peu plus la langue, est-ce que, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu arrives à apprendre la langue ou
Pas trop. Un petit peu par rapport aux autres pavillons, en fait. Mais bon, encore une fois, vu qu'on était beaucoup aussi avec les Italiens, j'ai plutôt appris l'italien aussi. Ouais. Je m'étais fait une copine américaine. Et c'était ma copine, c'était ma grande copine. Et avec elle, j'ai un peu appris l'anglais, ouais. J'avais déjà les bases, mais je pense plus avec elle, j'ai commencé à bien apprendre. Et puis voilà, non, c'est tout. Après, on était tout le temps entre Français, on faisait nos voyages entre Français parce que ce programme est super parce qu'il permet aussi de voyager en fait. Donc en général, il te donne l'opportunité d'avoir tes 2 jours de repos collés. Comme ça, ça en fait 4 et là, tu peux aller quelque part. Donc on a visité énormément d'états avec mes potes, on a fait plein de trucs et puis moi j'étais à la boulangerie, donc c'était pas non plus super. Je gagnais pas des 1000 et des 100, mais voilà, je savais où étaient mes priorités, elles étaient dans le voyage, donc j'économisais comme ça et puis voilà, je me lâchais pas sur le shopping ou sur parce que j'avais vraiment envie de voyager quoi. Donc voilà.
Et du coup, est-ce que c'est donc tu viens de mentionner le fait que donc tu avais un salaire quand même pour ça et en plus de ça, tu étais nourrie et logée?
Alors, j'avais un petit salaire, il déduisait le loyer dessus. Donc, quand j'étais à la bakerie, ça faisait, la boulangerie, ça faisait à peu près, je sais pas, dans les 200, 300 dollars par semaine. Donc, c'est pas énorme, mais on apprend à faire avec. Comme je disais, on voit nos priorités où elles sont. Et puis voilà, on fait des petites courses. On a la chance d'avoir des supermarchés où on peut trouver des choses pas très chères. Et puis voilà. Après, si t'arrives en tant que serveur, ça c'est encore différent. Ce sera une autre, c'est une autre chose parce que eux ils sont payés au pourboire les serveurs, donc c'est pas la même chose. Ouais. Mais voilà, du coup j'avais un petit salaire comme ça. Après je suis passée au glacier. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je vendais des glaces. Et puis au bout de 6 mois de programme, on te donne la possibilité de passer au resto. Mais en tant que commis. Donc, c'est ce que j'ai fait au bout de 6 mois. Donc là, je gagnais un petit peu plus parce que j'avais un pourcentage du chiffre d'affaires des serveurs. Donc là, direct, ça, c'était encore mieux pour voyager, quoi.
Tu passes au resto ou du coup à la brasserie? Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait 2 établissements.
Exactement. Donc moi, je passe à la brasserie. Donc c'est, les deux, ce sont des restos. Donc en bas il y a la brasserie Chef de France qui propose un peu des plats, des plats comme on retrouverait dans une brasserie de Paris. Et en haut il y a le restaurant gastronomique de Paul Bocuse. Donc c'est plus petit, il y a beaucoup moins de serveurs. Et donc voilà, ça c'est pour proposer un peu des plats un peu plus élaborés, on va dire.
D'accord. Et du coup, tu restes en tant que commis dans la brasserie jusqu'à la fin de ton programme?
Exactement. Ou est-ce qu'il y a d'autres? Pendant 6 mois, jusqu'à la fin de mon programme, j'étais commis. Donc ça aussi, bon, certes, on gagnait un peu plus d'argent. C'est vrai que c'était pas tous les jours facile parce que on portait beaucoup de plateaux, on recettait les tables, mais bon, on savait que c'était ça, quoi. Donc il y a pas de faux espoirs, de fausses illusions. On sait que bah quand tu fais commis, bah c'est ça. Et puis il y avait une super ambiance. Enfin moi j'adorais venir bosser avec mes copines. On savait qu'on allait bien rigoler. Et puis voilà, on faisait notre taf. Et puis on savait que même si des fois ça c'est un petit peu dur parce qu'on faisait des journées un peu chargées, on se disait bon bah attends demain on part à Los Angeles. C'est quand même le feu quoi. C'est la folie.
Ouais. Donc ouais, un programme intense mais ouais. Néanmoins super intéressant pour une première expérience aux États-Unis qui permet aussi de rencontrer des gens, de faire des voyages. Donc le jeu en vaut la chandelle quoi.
Exactement. Ah bah pour moi totalement, c'était la meilleure année de toute ma vie hein. Clairement j'ai rencontré des amis au top vraiment une famille de ouf et puis j'ai rencontré mon mari.
Alors du coup, avant qu'on aborde cette rencontre avec Jack, est-ce que au moment où tu es dans le programme, tu te dis que ça va être plus qu'un an et que tu aimerais bien poursuivre, ou est-ce que tu te dis c'est un an, c'est fun et après je rentre en France et je reprends une vie là-bas?
C'est un an. Pour moi, dans ma tête, c'était un an parce que à la fin, physiquement déjà, ça devenait dur. Et puis Et puis un an, ouais, ça suffit. Puis de toute façon, tout le monde partait, tous mes amis allaient partir. Donc, qu'est-ce que j'allais faire si je restais toute seule? Non, c'était un an. Et puis, je commençais aussi à être homesick, comme on dit. Donc, ma famille me manquait terriblement. J'avais mon petit neveu et ma nièce. Je les voyais pas grandir. En fin de compte, en un an, ça grandit beaucoup, un bébé. Et donc, j'étais... des fois, j'étais un petit peu triste. On était vachement soudés avec les copains ici parce qu'on était un peu tous dans le même cas en fait. Donc ouais, c'était un an et basta quoi.
Et du coup, tu rencontres Jack, qui est devenu maintenant ton mari, et tu le rencontres sur Epcot, dans le parc que tu viens de nous décrire.
Oui, plus ou moins. Voilà, on s'est rencontrés pendant le programme Et donc on a commencé à se voir, à aller boire un verre, à se voir dans des événements aussi que Disney organise pour les cast members. Il y avait des soirées organisées, c'était vachement sympa. Et donc voilà, on a commencé à se voir comme ça. Et puis là, je me suis dit mince, je l'aime bien.
Zut. D'accord. Et là, on est à quelques mois, je crois, de la fin de ton programme.
Ouais. J'étais déjà à 8 mois de programme quand je l'ai rencontré. Donc, en gros, il m'en restait 4. Donc là, je me suis dit, mince, ouais. J'ai réussi à éviter ce problème pendant presque tout mon programme. Et là, voilà, je rencontre un Américain, c'est ma mère qui va être contente. Donc, en fait, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que bah, on a commencé à se voir et se voir et se voir. Et puis, bah, voilà, on va pas se. Enfin, je suis tombée amoureuse, hein, clairement. Et puis, lui aussi, il m'a fait rêver. Enfin, en 6 mois, tout ce qui m'a apporté, c'est truc de fou. Donc du coup, mon visa arrive à la fin. Et donc là, on était du coup en avril 2015. Et ben là, il fallait que je rentre à la maison. J'avais pas d'autre solution. Ce sont pas des visas qui peuvent s'étendre. Voilà, fallait que je rentre. Donc en fait, à ce moment-là, moi, j'avais déjà mon billet. J'avais déjà, enfin voilà quoi, c'était le départ. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un billet d'avion et il est venu avec moi en France.
Pour passer quelques jours ou quelques vacances avec toi.
Exactement, pour passer une semaine en France, pour rencontrer ma famille et mes amis, et pour en gros me dire que bah, j'étais la femme de sa vie.
Waouh, chouette.
Ouais.
Il reste une semaine en France et puis il repart à Orlando. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Comment toi tu envisages la suite de votre histoire?
Oh là là, c'était dur parce que je me disais, mais purée, j'ai envie d'être avec lui, mais oh, va falloir encore que je quitte ma famille alors que je viens de les retrouver. Mais en même temps, je veux pas rester à Nice parce que y a personne qui comprend ce que je viens de vivre là pendant un an. Et du coup, je me sentais seule alors que j'étais entourée de tout le monde. Donc c'était vraiment quelque chose de terrible parce que je me sentais entourée, mais je me sentais seule en même temps. C'était vraiment un ascenseur émotionnel de ouf parce que pendant un an, j'ai fait plein de trucs et là, j'arrive et bah, limite, fallait que je me repose. Mais bon, j'avais plus l'habitude de me reposer, quoi. Et donc, ouais, c'était vraiment un truc de fou. Donc, j'ai laissé passer même pas un mois, je crois, parce que j'avais un ami qui se mariait, donc je voulais absolument aller à son mariage. Et puis, juste après le mariage, je suis retournée à Orlando. Donc, vraiment un peu vite fait, je me suis dit, bah, je fais un visa touriste et j'y vais, et puis on voit comment ça se passe, quoi.
D'accord. Et du coup, là, tu pars en te disant... Je teste un peu la température et je reviens et puis on avise ou tu pars avec d'autres plans dans la
Ben, je
tête?
suis partie, je savais pas trop ce qu'on allait faire parce que j'avais pas non plus des 1000 et des 100 de côté, donc je pouvais pas me permettre de faire plein d'allers-retours. Donc je me suis dit, je pars, je vais le rejoindre et puis je vois comment ça se passe parce que là, c'est clair que quand je suis repartie, bah tous mes copains étaient partis aussi. Donc
Oui,
j'avais
eux, ils étaient rentrés en France,
et
c'était
ouais
ça?
voilà, on avait tous fini notre programme. Donc après c'est des nouveaux qui arrivent, donc je les connais pas, je travaillais plus dans le pavillon français, donc voilà, ouais, j'étais vraiment toute seule. Donc, Jack, il est très malin. Avant qu'on rentre en France, on a pris un petit chien pour que voilà, je m'attache à quelque chose et que je n'ai pas envie d'abandonner mon petit chien. Donc, ouais, quand je suis revenue, du coup, bah, j'avais Rookie. Heureusement, il était tout bébé. Et puis voilà, c'était vraiment pour tester ce qui allait se passer, comment on allait faire, tout ça. C'était vraiment pour se poser, pour être nous deux pendant 3 mois, vu que j'avais une limite de 3 mois avec le visa touriste, et de voir ce qui allait se passer ensuite. Et
D'accord.
donc là, au bout de 1 mois, on s'est dit non, mais on se marie. On peut pas rester séparément en fait. On peut pas rester séparés, c'est pas possible. Faut qu'on se
Ouais, toi,
marie.
tu ne te voyais pas rentrer en France
Ah
et
non.
l'abandonner, en tout cas le laisser
Ouais.
encore un peu avant de... Ok.
Ouais, c'était pas possible. Du coup, on s'est renseigné. Et puis, parce que moi, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de me marier alors que je suis en visa touriste, etc. Et puis, du coup, on s'est bien renseigné. Et oui, effectivement, c'était possible parce que c'était pas quelque chose de prévu. Donc là, quand on prend la décision, j'appelle mes parents en FaceTime et je leur dis, je leur dis, bon, papa, maman, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais c'est juste pour vous dire que je vais me marier. Donc voilà.
D'accord, et du coup, bah, forcément, la question qui me vient, c'est comment est-ce que eux réagissent à cette annonce?
Ben, ils étaient super contents parce que vu qu'ils l'avaient rencontré, ils savaient que c'était un mec bien. Mais voilà, ma mère, elle a commencé un peu presque à pleurer, à me dire, mais moi, je veux venir pour ton mariage, blablabla. Donc je dis, maman, écoute. On va se marier le mois prochain, on va faire le mariage civil et on fera un vrai mariage religieux l'année prochaine. Comme ça, tous ceux qui veulent venir pourront venir, parce que je voulais le faire à Orlando. Et donc, elle me dit, oui, mais quand même si c'est que le mariage civil, je veux venir et tout. Je dis, bah, maman, écoute, dans la vie, rien n'est impossible. Il suffit juste que vous preniez des vacances, un billet d'avion, et hop, vous êtes là. Moi, je dis ça à mes parents qui n'avaient jamais voyagé. Donc, ouais. Donc pour eux, ça leur paraissait, mais impossible, quoi. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à avoir des congés pour le mois qui suivait. Et ils ont fait des demandes particulières parce que mon papa, avec son travail aussi, il ne pouvait pas prendre des congés comme ça. Ils ont pris un billet d'avion et ils ont débarqué à Orlando, quoi.
Ah, c'est chouette. Hein. C'est
ouais,
chouette.
C'était chouette.
Donc, vous vous mariez pendant ton ESTA. Et donc là, tu décides, vous décidez ensemble que maintenant, votre nouvelle vie commence à Orlando et qu'il n'y a pas de retour, en tout cas pas au-delà de potentielles vacances en France.
Exactement.
Et voilà.
Exactement. Donc, là, j'avais bien réfléchi et puis je me suis lancée. Bon, j'avais 27 ans, j'étais pas non plus... c'est pas comme si j'étais plus jeune et que je me disais, j'étais sûre, quoi. J'étais sûre que c'était lui,
ouais.
Donc on s'est mariés au bout de 9 mois de relation. Et, et là, on a enclenché, du coup, la procédure pour que je puisse obtenir la carte verte, la carte qui me permettra de rester aux États-Unis.
Et alors, du coup, ces démarches, on a parlé précédemment dans ce podcast avec Manon du visa fiancé K1. Là, c'est une démarche qui est différente parce
Exactement.
Que vous vous mariez aux États-Unis. Et du coup, qu'est-ce que ça implique derrière? Quelles sont les démarches? Est-ce que c'est rapide, coûteux? Est-ce que c'est compliqué?
Alors, nous, on n'a pas pris d'avocat. Donc, ça nous a évité de payer des frais d'avocat. C'est vrai que... Mon mari, il voulait un peu gérer ça parce que vu qu'il comprenait que c'était dans sa langue et tout ça, il s'est dit non, on n'a pas besoin d'avocat, on va tout faire nous-mêmes. Donc on a rempli les papiers nous-mêmes. Ça a pris quelques temps parce que c'est assez long. Donc il faut se poser, faire ça à la tête tranquille. Et puis ensuite on a envoyé tous les papiers et là j'ai eu mon permis de travail au bout de même pas 3 mois en fait. Donc même qu'on l'a fait sans avocat, ça, j'ai quand même eu les papiers rapidement.
D'accord.
Voilà.
Et après l'étape du permis de travail, est-ce que ta green card, tu l'as reçue longtemps après ou
Je crois que je l'ai reçue 6 mois après, mais pour ça, il fallait qu'on aille à un entretien. Donc, c'est pareil, je m'étais fait une montagne de cet entretien par rapport à tout ce que les gens disaient. Oui, ça va être fait gaffe, machin. En plus, tu t'es marié en visa touriste. Mais non, en fait... parce que c'était pas prévu et puis quand on est arrivé à l'entretien, ça a duré 5 minutes. La femme, elle a bien vu qu'on était normaux et que enfin puis j'avais même préparé plein de photos pour qu'elle voie et tout, mais elle s'en fichait en fait. Elle a dit OK, c'est bon. Donc je m'étais fait une montagne pour rien. Donc c'était un petit entretien qui a duré 5 minutes et suite à ça, il m'a envoyé ma green card.
Et du coup, oui, ce que tu disais, c'est que le fait de se marier sous ESTA, c'est pas un problème si tant est qu'on n'a pas tout prévu d'avance et que c'est pas quelque chose qui est anticipé depuis plusieurs mois, c'est ça?
Exactement.
Si c'est plus ou moins spontané en fait.
Exactement.
Ça pose pas de soucis.
C'est spontané et en plus on se connaissait d'avant. Je pense qu'il Alors, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait cette règle, du coup, qui était mise en place pour éviter des touristes qui arrivent et qui se marient, en fin de compte.
Oui, du coup, effectivement, l'immigration est sensible sur des mariages où les deux conjoints ne se sont jamais rencontrés, ce qui peut être assimilé à un mariage blanc, en fait, et du coup, un mariage pour les papiers. Donc, je pense que l'immigration est sensible à ça. Néanmoins, vous aviez déjà une relation avant votre mariage. Tu avais déjà vécu aux États-Unis, il y avait de quoi prouver que vous étiez un vrai couple, entre guillemets, si je peux le dire comme ça.
Tout à fait.
Donc, tu obtiens tes papiers, tu peux rester maintenant et construire ta nouvelle vie en Floride, à Orlando.
Voilà.
Et du coup, au niveau professionnel, à ce moment-là, qu'est-ce que tu envisages de faire et comment ça se passe pour toi d'un point de vue professionnel?
Je voulais pas quitter mon pavillon français, en fait. Du coup, maintenant, je pouvais travailler où je voulais. Mais je suis retournée travailler dans mon petit pavillon français de Disney. Mes managers ont bien voulu me reprendre. Et donc, j'ai passé le test pour être serveuse. Parce que je voulais pas non plus revenir travailler en tant que commis. Ça aurait été peut-être un peu difficile. Mais du coup, j'ai passé le test pour être serveuse et du coup, j'étais serveuse à temps plein à la brasserie Chef de France.
Ok. C'est un poste que tu as toujours aujourd'hui ou est-ce que les choses ont changé de ce côté-là pour toi ?
Je suis toujours au pavillon français. Donc, en fait, j'étais serveuse en bas à la brasserie pendant plus d'un an. Et puis, ça m'a permis aussi d'organiser mon mariage religieux. Donc là, tout le monde est revenu l'année d'après, en 2016. Mes copains du programme sont revenus. Mes colocs, c'était mes demoiselles d'honneur. Enfin, on a fait en gros encore des belles vacances en Floride, c'était ouf. Et donc après ça, la suite logique, c'est de faire un bébé. Donc voilà, je suis tombée enceinte juste après. Et donc là, en fait, de la brasserie, je suis montée à Monsieur Paul, au restaurant gastronomique. C'était le moment pour moi de voir autre chose. Et puis, mais voilà, toujours dans mon petit pavillon français, bien sûr, hein.
Ouais, d'accord. Et du coup, tu passes au restaurant, toujours en tant que serveuse.
Exactement.
D'accord. Et tu y travailles jusqu'à plus ou moins la fin de ta grossesse.
Plus ou moins, ouais, jusqu'à, je crois, 7 mois ou 7 mois et demi de grossesse, je travaille. Mmh. Je travaille plus cool, hein. Je faisais moins d'heures, parce qu'à la fin, ça devenait compliqué avec un gros bidon de passer entre les tables. Mais ouais, je fais moins d'heures. Et puis après, c'est mon ostéo qui m'a arrêtée. C'est pas ma gynéco. C'est un peu compliqué ici, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc du coup, j'ai été arrêtée un peu avant d'accoucher et puis j'ai repris le travail quand Elena avait 3 mois. Donc je suis retournée travailler au resto et cette fois, voilà, d'un commun accord avec mon mari, on s'est dit attends, tu vas pas reprendre à temps plein maintenant qu'on a la petite, tu vas reprendre à mi-temps. Donc lui, il la garde un jour pendant que je suis au travail et après les 2 autres jours où on travaille tous les deux, elle va à la crèche. Donc il y a une crèche Disney en fait. Pour les employés Disney, donc c'est-à-dire que la crèche ferme à 23h, donc ça c'est génial, ça m'a permis de garder mon boulot, parce que en tant que serveuse, on n'a pas des horaires de bureau, et moi vraiment je voulais pas faire autre chose, je voulais que travailler au resto.
Ouais, ça te permet d'avoir une grande flexibilité par rapport à continuer une carrière et en même temps pas tout sacrifier pour ton job et pouvoir t'occuper de ta fille.
Exactement.
D'accord. Et du coup, tu disais un peu plus tôt dans l'épisode que tu étais très proche de ta famille. Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse, justement, loin de tes proches et loin de ta famille ?
Ouais, c'était dur. C'était dur parce que j'ai pas eu de vrais problèmes de grossesse, mais j'ai eu tous les symptômes, quoi. Donc, ma famille me manquait vraiment et j'avais envie des petits plats de ma grand-mère. J'avais envie de manger des trucs niçois, de la stocca, de la pisse à la dière. Donc, on est quand même retourné en France quand j'étais à 4 mois de grossesse. J'ai pas trop laissé le choix à mon mari. Je lui ai dit là, tu comprends pas, mais il faut que je mange de la stocca. Donc, on est retourné en France et ça m'a fait un bien de ouf de revoir tout le monde. Et j'ai pu repartir pour la fin de ma grossesse un peu plus tranquillement et donc ouais, heureusement.
T'as rechargé les batteries.
Exactement.
Françaises.
Oh mon dieu, ouais, surtout niveau food, niveau nourriture.
Ouais, je crois que c'est un petit peu le dilemme de tous les expats, en tout cas aux États-Unis, c'est qu'il arrive quand même un moment donné où les petits plats français nous manquent, même si on trouve de la très bonne nourriture, etc. Mais des fois aussi, bien manger des plats français, ça peut coûter cher.
C'est ça.
Donc du coup, tu, Elena, née en septembre 2017,
c'est ça.
Tu retournes travailler à mi-temps à Epcot, au pavillon français.
Voilà.
Et puis, après quelques mois, je crois, tu décides d'ajouter une nouvelle corde à ton arc.
Oui.
Et soutenue par ton mari, tu te lances dans l'entrepreneuriat.
Exact.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure, comment elle est née et puis ce qui l'a rendue possible aussi ?
J'ai toujours aimé faire des photos, mais je me suis lancée dans la photo. J'ai toujours aimé faire des petites photos par-ci, par-là, voilà, de mes voyages. Ça fait des années que je suis sur Instagram et donc je postais au début des petites photos de Nice, après des photos de mes voyages quand j'étais en Amérique, etc. Et puis Et puis voilà, j'ai rencontré des amis exceptionnels ici aussi à Orlando et mes copines et Jack me disaient « mais il faut que tu te lances dans la photo, il faut que tu fasses quelque chose ». Et puis bon, maintenant que j'étais à mi-temps, je pouvais pas dire que c'était le temps qui me manquait, donc j'avais plus d'excuses. En gros. Et c'est un peu ma copine qui m'a pris avec elle pour un projet et après Jack qui a revendiqué parce qu'il est trop comme ça en fait. Il parle de moi tout le temps c'est aux gens qui l'entourent mais il pense pas aux conséquences. Donc en gros, ouais. il m'a fait embaucher auprès de la voisine pour faire des photos de son mariage. Mais moi j'étais super énervée, j'ai dit mais chérie, tu peux pas faire ça, tu peux pas il y a une grosse différence entre prendre des photos du château de Disney et faire des photos de mariage. Et donc du coup là en gros, c'était ou soit j'annule et je perds un peu la face, quoi. Ou soit je me mets à fond, j'ai 5 mois pour m'y préparer et je fais ce mariage. Et donc.
Tu relèves le défi.
Exactement. Et du coup, j'ai relevé le défi. J'ai pris plein de cours. Voilà, j'ai passé des heures et des heures sur des cours de photo. J'ai essayé de m'enrichir au maximum. Je prenais mes copines en modèle. C'était bon, allez, habille-toi, mets-toi des petites fleurs sur la tête. On va aller prendre des photos. Fallait que je pratique. Et du coup, ça, c'était en janvier ou en février. Et après, je me suis fait un site internet et je me suis dit, bon, allez, c'est parti, c'est trop génial, j'adore faire ça. Et puis, ça m'arrondit bien les fins de mois aussi, donc maintenant, c'est cool, quoi, c'est cool.
D'accord. Du coup, tu commences avec le mariage de tes voisins. Et est-ce que aujourd'hui tu as un peu diversifié ? Est-ce que tu fais autre chose que du mariage ou principalement ?
Complètement, parce que les mariages, c'est pas facile comme ça à avoir des mariages tout le temps. Donc je fais surtout des familles, des enfants, des familles qui viennent en vacances à Disney et qui me contactent sur Instagram pour avoir des photos dans un hôtel ou dans un petit village donc ça c'est super super fun, j'adore faire ça. Des femmes enceintes maintenant pas mal. Donc ouais. C'est cool, en fait le bouche à oreille s'est fait assez rapidement, surtout avec la crèche, avec le boulot, etc. Et Instagram surtout, ça s'est fait assez rapidement. Donc j'arrive à avoir quelques shootings par semaine, donc c'est vraiment vraiment cool. Et du coup je me prépare maintenant un peu mieux pour l'année prochaine, pour faire plus de mariages, quoi.
D'accord. Et du coup, tu dirais que ta clientèle est principalement américaine ou tu as aussi des Français qui te contactent ?
J'ai principalement américaine, du coup, ma clientèle. Pour le coup, là, j'étais obligée de comment dire... Enfin, c'était aussi un autre défi pour moi parce que... Ben voilà, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc je me suis dit, oh là là, mais ça va être compliqué de leur dire de faire ci, faire ça, les pauses, machin, de faire des contrats, de leur expliquer, de leur faire signer. Et donc, du coup, je m'étais mis aussi une pression. Et puis, au final, une fois que j'étais lancée, il fallait que je le fasse, donc tout en anglais. Et puis, j'arrive à avoir des fois quelques clients français parce que voilà, on est une petite communauté de français ici. Donc, s'il y a des gens qui cherchent un photographe, bah, ils savent que voilà, je fais de la photo et donc je peux faire aussi des photos pour les français aussi. C'est cool.
D'accord. Donc, avis à nos auditeurs qui seraient de passage à Orlando et qui souhaiteraient immortaliser leurs vacances en couple ou en famille. N'hésitez pas à contacter Johanna. Plutôt une belle aventure pour toi que cette aventure américaine. Tu étais partie pour un an et puis finalement, on est presque 6 ans plus tard, hein, si je ne me trompe pas. Une famille qui s'est agrandie. Je crois que tu as fait construire une maison aussi avec ton mari.
Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est vraiment ouf parce que ici à Orlando, il y a vraiment plein de possibilités. En tout cas, faire construire une maison, c'est vraiment facile entre guillemets et c'est vraiment beaucoup moins coûteux que à Nice par exemple, là où je viens. On va dire que ma maison c'est le prix d'un 2 pièces à Nice, quoi. Donc il n'y a pas photo, on est vraiment bien, quoi.
D'accord. Et du coup, alors qu'est-ce que cette aventure et ces 5-6 dernières années t'ont apprise sur toi, sur ta vie en général?
Sur moi, je dirais que je suis peut-être un peu moins naïve. Ça m'a permis de m'endurcir. Le fait de quitter sa famille, de se retrouver un peu toute seule, entre guillemets, ça m'a permis d'apprendre les vraies valeurs de l'amitié aussi. parce que ici, ouais. quand on est tout seul et du coup ici, on a une petite communauté de Français avec lesquels on est très proche. Principalement, les personnes qui travaillent à Monsieur Paul sont des résidents aussi et certains ont des enfants aussi. Et du coup, c'est vrai que voilà, on est super super soudés. Et je dirais quelque chose que peut-être j'aurais jamais fait en France. Voilà, me lancer dans la photo, je l'aurais jamais fait en France parce que pour moi, c'est beaucoup de bâtons dans les roues. Alors que ici, tout est possible. Tout est amazing et si t'as quelque chose en tête, tu peux le faire en fait.
Quand on veut, on peut aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une plus grande facilité d'aborder des projets d'entrepreneuriat.
Oui, et puis, ça donne aussi la possibilité parce que en France j'aurais jamais pu m'acheter un appareil professionnel. Ici ils te donnent la possibilité comme ça en un claquement de doigts de pouvoir faire une carte de crédit pour t'acheter un appareil photo, donc c'est vrai que c'est accessible à tous quoi.
Ouais, ce qui peut s'avérer parfois être à double tranchant si on sait pas bien gérer son argent parce que le crédit est très facile et que les Américains ont parfois tendance à s'endetter un peu plus que de raison, mais en tout cas ça donne de la flexibilité quand on a effectivement un projet comme le tien. Du coup, on arrive un peu à la fin de cette interview. Moi, ce qu'on aime bien demander à nos invités, c'est s'ils devaient nous conseiller deux ou trois endroits à ne pas manquer lors d'une visite à Orlando, puisque c'est là que tu vis. Qu'est-ce que tu conseillerais alors, qu'il soit pas forcément d'ailleurs quelque chose de très typique pour les touristes, mais on aime bien aussi les bons plans hors sentier battu.
Donc pas Disney. Donc à part Disney, nous on aime bien aller à Celebration. C'est un petit village peut-être 20 minutes d'Orlando, même pas. Et c'est vachement sympa pour se promener. Il y a des grands lacs, il y a des petites promenades à faire. On peut se boire un café, on peut se faire un petit dîner. Il y a même des glaciers ou une petite boutique de macarons. Enfin, c'est vraiment le top quoi, pour se promener un après-midi comme ça, être tranquille. On aime beaucoup aller là-bas.
Ouais, et alors je dois dire que j'ai effectivement, et je crois d'ailleurs sur tes recommandations, cet été quand j'étais de passage à Orlando, j'ai testé Celebration, qui est une petite ville qui a été inventée en fait par Walt Disney, le père fondateur de Disney, et il avait une vision assez... assez particulière et très communautaire de cet endroit. Et c'est vraiment très, très charmant, effectivement. Et j'ai pu tester les glaces qui sont
super.
Très, très bonnes.
Eh ben, écoute, nous, on va souvent là-bas le 31 octobre quand c'est Halloween parce que c'est vraiment l'ambiance à l'américaine. C'est-à-dire que tout le monde ouvre leur maison et on fait le trick or treat, comme on appelle ça. Donc, on passe, on récupère plein de bonbons. Bon, maintenant qu'on a Elena, c'est une excuse pour y aller en plus. et puis, on se fait une promenade et c'est vraiment top, top. Il y a vraiment une petite communauté aussi là-bas qui est sympa. On a bien allé quelque chose qui n'existe pas en France, ça s'appelle Barnes and Nobles. Donc c'est un genre de grande bibliothèque où à l'intérieur il y a un Starbucks. Donc nous on aime bien aller là-bas pour quand on a envie d'être tranquille et de lire des livres, de se documenter un peu, où il y a des choses, mais des livres pour tout le monde. Il y a même des activités pour les enfants. Et puis voilà, on boit notre café. Je trouve ça vraiment cool et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas en France.
Alors ouais, Barnes & Noble, je pense que c'est un peu à mi-chemin entre une bibliothèque et une librairie, parce que la plupart des livres sont en vente, et c'est vrai que je pense que ce qui s'y rapprocherait le plus, même si ça reste différent, ce serait peut-être la FNAC, mais il y a moins cette possibilité de hang out, quoi, de s'installer et puis de boire son café.
Nous on aime bien aller là-bas. Des fois, quand on sait pas quoi faire, on va se prendre un café là-bas et puis la petite elle joue parce qu'il y a au fond il y a plein de trucs pour les enfants, plein de livres pour les enfants, donc c'est cool. On aime bien aussi faire ça. Et puis voilà. Après, je pense que mis à part Disney, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête comme ça.
D'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs qui peut-être vont partir à Orlando ou aux États-Unis plus globalement?
Si vous voulez faire un peu dans la facilité et partir en étant encadré sans partir pour y vivre, mais je pense que le programme Disney, c'est vraiment cool. Ça donne vraiment cette possibilité d'aller voyager et d'être encadré, d'avoir un visa, d'avoir un appartement quand on arrive à Orlando.
Bah écoute, merci beaucoup Johanna pour de nous avoir raconté ton histoire, d'avoir partagé ces informations par rapport à ce programme qui effectivement a l'air vraiment super. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton aventure entrepreneuriale. On partagera toutes tes coordonnées sur Instagram et puis dans le détail du podcast. Puis ouais, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller rejoindre le compte Instagram de Johanna qui partage de super photos.
Mais merci beaucoup. Puis merci pour ce podcast, hein, c'est vraiment chouette.
Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook @FrenchExpatLePodcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!